Les pieds sur terre, Sonia Kronlund
et Delphine Seltel.
Des histoires, des enquêtes, des reportages.
Ah, c'était comme ça que les choses arrivent.
L'histoire se passe à 25 km de Nancy, dans une commune qui s'appelle Dieulouard. Elle est racontée par Fabrice Tassel dans Libération. Jacques Schnegg vit avec sa femme Claudine et leurs quatre enfants dans un pavillon modeste, estimé à environ 200 000 euros. Lui est technicien chez Saint-Gobain, il gagne 2300 euros par mois. Elle garde des enfants à domicile pour un salaire mensuel de 700 euros. Ils mènent une vie qu'on pourrait dire banale, mais pas malheureuse. Ils auront bientôt 30 ans de mariage, lui voyage pas mal pour son travail, et ils ont un petit terrain à côté de la maison. Le mercredi 28 août 2009, après avoir passé une soirée à regarder la télévision, Jacques se réveille et après quelques recherches inquiètes, trouve sa femme pendue dans la buanderie. Dans la poche de son short, une lettre qui précipite une deuxième fois son mari dans un abîme d'incompréhension. « Je sais que vous ne me le pardonnerez jamais, mais je ne supporte plus la situation dans laquelle je nous ai mis. J'espère que vous garderez beaucoup de courage. Adieu, je vous aime tous très fort. » Un peu plus loin, dans une pile de linge, poursuit Libération, Jacques découvre la raison de son geste, sous la forme d'une liasse de crédit à la consommation, 27 en tout, contractée en 3 ans. Quelques heures plus tard, à l'agence Caisse d'épargne de Dieulouard, le mari, dévasté, saisit l'ampleur précise des dettes cumulées sans que jamais aucune alerte ne lui soit parvenue. 207 639 euros et 68 centimes de prêts, allègrement accordés par des organismes sans scrupules comme CTLM et Cofinoga pour ne pas les nommer. Des sommes qui ne servaient pour la plupart qu'à alimenter un système de cavalerie et à rembourser des dettes d'autres crédits. Le mari inconsolable y perd son épouse, chère et tendre, et la moitié de son salaire, puisqu'il doit depuis rembourser chaque mois 1156 euros pour éponger ses dettes. À qui se fier, doit-il se demander, comme nous le faisons avec deux autres histoires en mode Jean-Claude Roman sans les meurtres. Je vous laisse en juger, elles sont racontées par Claudia Prolongeau.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Je m'appelle Julien Marty, j'ai 49 ans, j'habite Bruxelles. Donc l'histoire commence en juillet 2015, lorsque je reçois un message, une demande d'amis sur Facebook. Je regarde, le nom me dit quelque chose, et là j'ai un flash, et je me souviens en fait de cette personne que j'ai rencontrée l'espace de quelques minutes, 30 ans auparavant. Donc j'accepte l'invitation. Et de fil en aiguille, la conversation s'engage, on échange quelques textos pour finalement, au bout de quelques heures, s'appeler. Et là, alors qu'on n'a absolument rien à partager, puisqu'on ne s'est pas vu depuis 30 ans et qu'on n'a passé qu'un quart d'heure ensemble, on est absolument intarissable, on se raconte nos vies et tout se passe super bien. Elle était sage-femme. Elle avait été mariée deux fois, divorcée deux fois, deux enfants de pères différents. On passe plus de deux heures au téléphone la première fois qu'on s'entend. Et donc il y a vraiment quelque chose qui passe. Et de fil en aiguille, le lendemain, je lui propose de venir manger à la maison. Et puis la personne arrive chez moi, on prend un apéro, on mange, etc. Elle me faisait rire, elle me passionnait, elle était très intéressante, très intelligente, très cultivée. Ça me plaisait beaucoup. Et puis on s'embrasse. Le lendemain, midi, on passe une heure ensemble et elle m'explique tout son parcours. Un cancer quelques années auparavant et aujourd'hui une vie de maman seule avec ses enfants et ayant gardé des séquelles, on va dire, de son cancer passé. L'histoire évolue comme ça, on se voit de plus en plus, on se présente nos enfants respectifs, tout se passe bien, si ce n'est qu'elle a quand même des crises, généralement le soir, au moment du coucher. Elle prend beaucoup de médicaments, qui apparemment sont dus à la suite de la chimiothérapie qu'elle a subie quelques années auparavant. Je l'invite très vite à diminuer un petit peu les doses parce que je vois que c'est 25-30 médicaments par jour. Je trouve ça beaucoup. Elle a perdu 20% de son poids en quelques semaines. Elle est extrêmement frêle, fragile. Et donc, elle me dit qu'elle a pris rendez-vous chez le médecin parce qu'elle se sent vraiment pas bien. 2 jours après, je crois, les résultats arrivent. Je lui pose la question, elle me dit bah, « Écoute, c'est rebelote. J'ai de nouveau un cancer à l'ovaire. » Et on est au stade 5++ sur 6. Donc, stade très très avancé. Je l'accompagne comme je peux, en étant le plus possible aux petits soins, en la soulageant le mieux qu'on puisse le faire. Quelques semaines plus tard, suite à une consultation chez la gynéco, on décide d'opérer. Alors on ne sait pas encore ce qu'on va faire, mais au moins on va aller voir ce qui se passe d'un peu plus près. Et je suis bien embêté parce que ce jour-là j'ai une réunion d'ordre professionnel, suivi de soirée, etc. Enfin, un événement auquel je ne peux pas me soustraire. Je la dépose à l'hôpital pour l'intervention en lui disant de rentrer en taxi. Moi, je rentrerai un peu plus tard dans la soirée. Je la retrouve le soir même. Elle a 3 pansements au bas-ventre. Je m'occupe d'elle tout le week-end pour qu'elle bouge le moins possible. Voilà. Après ça, les rendez-vous s'enchaînent. Je suis chaque fois un petit peu mis sur le côté, malgré mes demandes insistantes et répétitives de pouvoir l'accompagner, etc. Les rendez-vous sont soit annulés, soit postposés. Donc je ne peux jamais me rendre aux rendez-vous médicaux avec elle. J'arrive tout de même à l'emmener, moi, chez un médecin que je connais, puisqu'elle refuse totalement la chimiothérapie. Les semaines passent, son humeur change énormément. Elle est évidemment très mal. Elle sait que l'issue est fatale. Elle en parle à sa fille également, qui a un peu plus de 20 ans, et qui, selon elle, est capable d'entendre ça. Donc elle lui explique non seulement qu'elle va mal, que la fin est proche, mais elle explique aussi qu'elle a envie de partir de son plein gré. Et sa fille comprend tout ça. Elle comprend la fatigue de sa maman, le fait qu'elle en ait un peu assez de la vie. Et elle lui écrit une très très belle lettre pour lui exprimer tout ça. En lui disant, t'inquiète pas, fais ce que tu as à faire. Je te pardonne déjà à l'avance. Et ne t'en fais pas pour la plus petite. Je m'en soucierai, je m'occuperai d'elle et tout ira bien. Donc pars tranquillement. C'était une lettre magnifique. Les métastases au cerveau se manifestent, ce qui explique aussi les accès de colère, puisqu'elle s'en prend à moi, les confusions parfois, les pertes de mémoire. Tout ça fait de ma vie quelque chose, enfin des moments qui ne sont pas très drôles, où je suis constamment aux petits soins, très très fatigué. Je suis complètement épuisé, au point qu'à un moment donné, j'ai l'impression que je perds même un petit peu le sens du jugement, quoi. Au bout de 6 bons mois, presque 7, 3 personnes de mon entourage m'ont toutes les 3 posé la même question au cours de la même semaine, en me demandant si j'avais pas vraiment l'impression d'être manipulé. Je me suis dit que c'était peut-être pas un hasard non plus, puisque je m'étais déjà posé les questions. Et chaque fois que je la confrontais à ces incohérences, comme on dit, elle retombait sur ses pattes en 2 secondes avec une explication absolument imparable. À tel point que je me culpabilisais de douter, de mettre en doute tout ce qu'elle m'expliquait. Parce qu'il faut pas oublier que j'avais des symptômes observables tous les jours. Saignements, vomissements, perte de poids, perte d'équilibre. Et donc j'ai décidé d'appeler sa fille, parce qu'il fallait bien que je perce le mystère. J'ai décidé d'appeler sa fille pour la féliciter de la belle lettre qu'elle avait écrite à sa maman. Et elle me dit, oh, mais ça fait un petit temps que j'ai écrit ça. Ben, je dis, non, pas si longtemps, apparemment ça fait 3 semaines. Et alors elle a dit, mais non, elle dit, il y a 3 semaines, moi j'ai rien écrit à maman. Et puis, ne t'en fais pas, elle dit, maman va pas mourir demain. Je dis, ben, moi ça fait 4 mois qu'elle doit mourir dans 15 jours. Cette lettre n'avait pas été écrite par sa fille. J'étais dans un état second quand j'ai appris ça, abattu, en colère. Parce que je découvrais en fait que tout ce que... Enfin, la personne que j'aimais, dont je m'étais occupé, que j'avais choyé pendant tant de mois, et pour laquelle je m'étais fait un sang d'encre, avait inventé. Et donc j'ai commencé ma petite enquête qui a duré 4 jours à force d'appels dans des centres médicaux, dans des hôpitaux, dans certains cabinets où j'ai eu des médecins. Certains médecins m'ont dit oui, on connaît cette patiente, mais il y a bien longtemps qu'on ne l'a pas vue. Je me suis aperçu que les soi-disant consultations auxquelles elle se rendait, même l'intervention chirurgicale, tout ça n'a pas eu lieu. Pendant les 4 jours, j'ai tout fait pour l'éviter. Et donc ça a généré chez elle un énervement particulier, puisque j'ai finalement devenu sa nourriture. Sans moi, tout ce monde inventé s'écroulait. Donc il fallait que quelqu'un y croie constamment, quotidiennement. Et donc 4 jours de silence, pour elle, c'était absolument insupportable. Elle a débarqué, je lui ai dit, voilà, je sais tout. Tu n'es pas malade. Ou alors si tu l'es, c'est... dans ta tête. Je lui ai demandé de sortir de chez moi, de sortir de ma vie. Je suis remonté, j'ai tout fermé à double tour. J'ai éteint mon smartphone, je me suis mis au lit. J'avais très peur de ses réactions aussi. Et je me suis mis à trembler comme une feuille. J'étais absolument tétanisé. Après ça, je suis parti 4 jours prendre un peu l'air. Donc ça m'a permis d'aller me balader dans la neige, au grand air. Et ce qui s'est produit est assez miraculeux, puisque là, en l'espace de 2-3 jours, j'ai abandonné en fait toute colère, tout ressentiment et toute rancœur par rapport à cette histoire. Je me suis rendu compte que elle était vraiment malade, et il y avait de la mythomanie, il y avait de la manipulation. Je pense même qu'elle était consciente de sa maladie, mais que c'était plus fort qu'elle, qu'elle n'arrivait pas à la gérer et à se contenir. Pour donner l'illusion qu'elle était vraiment malade, elle prenait quotidiennement une dose importante de médicaments pour provoquer de faux symptômes. Tout est magnifiquement organisé, ça roule comme du papier à musique, quoi. Et j'ai appris par sa fille, lors d'une conversation téléphonique, qu'elle n'était pas sage-femme non plus, qu'elle n'avait jamais fait les études. Ce qui m'a terriblement aidé, c'est de faire fi quelque part de ce qui m'était arrivé, et surtout de ne pas garder cette colère inutile en moi. Et puis les mois ont passé, et puis 9 mois plus tard, j'ai décidé d'écrire. Un an et demi après, j'ai eu un appel. Le numéro me disait vaguement quelque chose. J'ai décroché un appel tard dans la nuit. J'ai dit allô, allô, 3 fois. Et on n'a jamais répondu. Et je sais que c'était son numéro. Elle avait besoin de moi pour exister. Mais peut-être que le rôle que je jouais était aussi une façon pour moi d'exister.
Alors, on est en juin 2011 et je suis étudiant à l'IUT à Besançon. Et donc, pendant les vacances scolaires entre les deux années, j'ai décidé de rester à Besançon pour travailler en job d'été dans un magasin de prêt-à-porter, de luxe accessible. C'est un milieu que je ne connaissais pas avant, je le découvre puisque j'ai jamais travaillé dans le prêt-à-porter avant, c'est la première fois. Donc je commence à travailler en tant qu'extra solde, j'ai un contrat de 2 mois à peu près, un petit peu moins, voilà. Mon travail, c'est de tenir le stand homme de cette marque. Et donc pendant ces 2 mois, je vais passer 9 heures par jour sur le stand avec un collègue qui s'appelle Michel. Michel, il est plus vieux que moi parce que j'ai 19 ans à l'époque et lui, il en a déjà plus de 30. On passe vraiment 9 heures par jour ensemble sur un stand, c'est-à-dire que pendant 9 heures, on est tous les deux. Il n'y a pas beaucoup de clients parce que c'est une marque de luxe accessible. Du coup, on a géré 3 ou 4 clients par jour. Donc la plupart du temps sur le stand, on le passe ensemble à plier des vêtements en discutant. Quand on discute 9 heures par jour, ça fait forcément beaucoup. On commence à s'ouvrir, à se livrer des choses sur notre vie personnelle, que ce soit familiale, amicale, amoureuse. Il m'apprend, par exemple, qu'il n'a pas énormément d'amis dans Besançon parce qu'il est arrivé il n'y a pas longtemps, mais qu'il vit avec sa copine, mais qu'il est bisexuel. Et pour cette raison, en fait, souvent, quand il y a des clients hommes qui viennent sur le stand, il les accompagne jusqu'aux cabines. Et parfois, il rentre dans la cabine avec eux, et quand il sort, il a un petit sourire, et il me dit « Ah Nathan, je suis trop content, je lui ai touché le sexe, ou il s'est passé quelque chose, ou voilà. » Moi, j'accueille ces nouvelles plutôt positivement, en me disant « Bah, tant mieux pour lui. » Un jour, il y a un épisode un petit peu étrange qui se produit, où... il emprunte une veste en cuir qui venait d'arriver sur notre stand. Donc c'est une veste en cuir qui coûte à peu près dans les 400 euros. Et il la prend en m'expliquant qu'il ne la paye pas tout de suite, qu'il la paiera plus tard puisqu'on n'a pas encore reçu les salaires. Et que donc en attendant de recevoir le salaire et qu'il soit en mesure de la payer, il va la déclarer provisoirement volée en m'expliquant que on déclarera qu'on l'a retrouvée le jour où il pourra la payer. Moi je lui dis, y a pas de problème, hein, tu fais ce que tu veux, de toute façon t'es un grand garçon, c'est pas moi qui vais te dire ce que tu dois faire ou pas. Et puis, on sort le soir, comme souvent, du coup, avec d'autres collègues qui travaillent au stand femmes. On s'est retrouvés dans la rue à la tombée de la nuit, à marcher en direction d'un bar. Et puis, Michel portait sur lui cette veste qui venait juste de sortir du stock. Parmi ses collègues qui travaillent au stand femmes, il y en a un qui a quelques ambitions d'évolution professionnelle au sein du magasin et qui est réputé un petit peu pour ne pas hésiter forcément à failloter si nécessaire. Et en fait, ce collègue du stand femme a tout de suite remarqué que Michel porte une veste en cuir qui fait partie des nouveaux arrivages de la marque. Et donc, il lui fait une réflexion sur cette veste. « Ah, tu t'es acheté une nouvelle veste ?» Puis Michel dit « Oui, je l'ai acheté, etc. » Il lui dit pas qu'il ne l'a pas payé. Et le lendemain, ce collègue du stand femme monte dans notre stand avant qu'on arrive pour fouiller l'ordinateur et vérifier qu'effectivement, il y a bien eu une vente de cette veste-là pour vérifier que Michel avait payé la veste. Et là, il découvre en fait que la veste a été déclarée volée. Il vient sur le stand après, plus tard, parler avec Michel de ce point-là. Michel lui dit que non, il s'est trompé quand il a déclaré volée. Il voulait déclarer volée cette veste, mais une autre taille en fait. Et que lui, il a bien payé sa veste. Et les jours ont passé, les semaines ont passé. On a continué à sortir, à nouer des liens, à parler, etc. Jusqu'au jour où je suis tout seul sur le stand, puisque Michel est en jour de repos. Et... il y a un homme qui donc a plein de sacs dans les bras, d'habits achetés dans différents stands des Galeries Lafayette, et il me demande si Michel est là. Je réponds que non, Michel est en jour off, mais que si besoin, moi je peux l'encaisser, il n'y a pas de problème. Il me répond que non, c'est gentil, mais que ça fait longtemps qu'il n'a pas vu Michel, qu'il reviendra demain pour le voir. Mais il me dit que ça l'embête un petit peu de reposer toutes ses affaires, il me demande si je peux les mettre dans la réserve. Je lui dis que habituellement ça se fait pas trop, mais que je peux le faire jusqu'à demain, et que s'il revient pas demain, je reposerai en rayon, mais s'il revient demain, ça devrait aller. Donc je mets les affaires dans la réserve, et puis je laisse un mot à Michel, puisque le lendemain, c'est à mon tour d'être en repos. J'apprends par Michel, le lendemain, qu'il a été renvoyé de la marque de vêtements. Et il m'explique un petit peu vaguement que c'est pour une affaire de vol, qu'il a aidé un ami à voler quelques vêtements aux Galeries Lafayette et que ça a pris un peu des proportions inattendues. Voilà. Du coup, il m'envoie un message comme ça, un petit peu étrange en fait, que je comprends pas, parce que dans le message, il s'excuse vis-à-vis de moi. Et c'est dans les jours suivants, en discutant avec les autres vendeurs, que j'apprends un petit peu plus ce qui s'est passé ce jour-là où j'étais absent. Et apparemment, l'homme que j'avais rencontré qui m'a donné le sac à mettre en réserve est revenu le lendemain. Et effectivement, Michel n'a passé en caisse qu'une paire de tongs de cette marque-là, qui coûtait une trentaine d'euros. Et le reste des achats, il ne l'a pas fait payer. Du coup, l'homme a donné, je ne sais pas, 300 euros en liquide ou 500 euros en liquide à Michel. Ce procédé-là, Michel l'avait avec beaucoup de clients différents. C'était une arnaque organisée vraiment depuis le début. Donc c'est la raison pour laquelle il allait s'enfermer dans les cabines avec des clients. Quand il revenait pour me dire tout content qu'il avait flirté, bah en fait il s'était juste mis d'accord sur combien les clients allaient lui donner en liquide, comment il allait faire sortir les vêtements, etc. Après l'histoire, j'ai appris que en fait, ça faisait plusieurs semaines que Michel il était surveillé par les services de sécurité et que ce jour-là, après son encaissement, il y a une vendeuse qui est venue vérifier le dernier encaissement réalisé et qui a vu qu'il y avait eu que 30 euros d'encaissé alors qu'en réalité, il y avait pour 3000 euros de fringues. Après, on a parlé un petit peu par texto, je sais plus qui a envoyé le premier message à l'autre. Je voulais pas le couvrir de reproches en plus de son renvoi. Je sais qu'il n'a pas fait ça contre moi, je lui en veux vraiment pas. Il s'est pas fait renvoyer, il a été contraint de démissionner, en échange de quoi il n'y aurait pas de plainte contre lui, puisque la marque ne voulait pas salir son image en portant plainte contre lui et en dévoilant cette histoire. Moi, ça a eu quelques toutes petites conséquences professionnelles, c'est qu'à l'époque, ça se passait plutôt bien pour moi dans ce magasin et qu'il était prévu que je signe un mi-temps à la rentrée à côté de mes études. Et en fait, après cette histoire-là, j'ai jamais eu de nouvelles à mes relances. Donc je pense qu'en fait, ils ont considéré que j'étais impliqué en tant que complice ou quelque chose comme ça. Depuis cette histoire-là, j'ai eu plusieurs cas comme ça où j'ai fait des rencontres de gens où ça matchait bien et où je me suis directement dit, tiens, lui, ça peut potentiellement être un ami ou elle, ça peut potentiellement être une amie. Et où j'ai quand même gardé une réserve sur mon engouement pour cette nouvelle relation, on va dire. Donc, sur la confiance que je pouvais accorder à ce que l'autre me racontait, sur la véracité de ses faits, etc. Je remets beaucoup plus en question les histoires que des inconnus me racontent ou des nouvelles rencontres me racontent. Michel, j'ai découvert que et son nom et son prénom étaient faux. Et par exemple, son adresse, c'était en fait l'adresse d'un fleuriste. J'ai découvert qu'il n'était pas en couple avec une fille comme il me l'avait prétendu. Donc tout ce qu'il m'a raconté sur elle, sur sa personnalité, sur son nom, etc., j'ai plus de détails, mais bah, c'est faux. Ce qui me perturbe un petit peu dans cette histoire, c'est que je me rends compte après coup que, tout compte fait, je ne connais rien de cette personne. Je ne sais pas qui il est, je ne sais pas si ce qu'il m'a dit c'est vrai et si oui, à quel point. Et je ne sais rien de Michel en fait, pas même son prénom.
Je m'appelle Bernadette Gregorati. J'ai 74 ans. C'est une histoire qui se passe à Bourges dans les années 1962. Ma mère tenait un petit bistrot de quartier qui s'appelait Le Petit Bleu. Elle avait une clientèle d'habitués. Il y avait des petites disputes de belote parce qu'il y avait des tricheurs, parce que il y en avait qui jouaient mal, qui se faisaient disputer. Enfin, ça faisait une ambiance. Et puis, comme ma mère s'était fait une réputation de bonne cuisinière, il y avait vraiment toutes sortes de clients. Il y avait celui qui cherchait à se sauver sans payer régulièrement. On l'avait à l'œil avec ma mère. Il y avait un notaire, il y avait toujours des bandes de copains. Et il y avait donc un groupe de clients. Ils étaient cinq. Bon, avec ma mère, qu'est-ce qui les liait ? Le comptoir. Je crois que c'était le seul lien. Mais il y avait beaucoup d'entraide entre eux. Il y avait le cordonnier d'à côté, Mimille. Il y avait le bourrelier qui était à côté aussi, un voisin. Ma mère, la pipe. Ce monsieur, on l'appelait la pipe parce qu'il avait toujours une pipe. Et je crois qu'il y avait la flotte parce qu'il s'appelait Monsieur Bardelot de son vrai nom, mais c'était transformé en la flotte. Et ben, la pipe devait avoir une trentaine d'années. Un physique un peu gringalé, très vif. Il avait les cheveux gominés, noirs, coiffés, très lisses sur la tête, un peu longs derrière. C'était le garçon sympathique. Et tous ses loisirs tournaient autour des amis du Petit Bleu. Il y en avait un qui avait envie de devenir riche un jour, on parlait de si on gagnait, et voilà, donc il prenait un billet. Et un jour, un billet est sorti gagnant, la pipe, qui est allée chercher la somme, n'est jamais revenue. Il a disparu du café en emmenant la somme d'environ 500 euros maintenant, je pense, presque un mois de salaire à l'époque. Les autres, au début, ils ont dû attendre quelques jours de le voir revenir. S'il était revenu, avec une excuse, je crois qu'il l'aurait accueilli volontiers. Certains le voyaient passer de temps en temps, à grande vitesse, sur une mobilette bleue. Donc on suppose que l'argent a servi à acheter cette mobilette bleue, parce qu'avant, il n'avait qu'une bicyclette ordinaire. Et lui a été emporté par cette somme parce qu'il devait avoir un rêve de mobylette et il a pu l'exaucer. De temps en temps, je me rappelle avoir entendu « Tiens, j'ai vu la pipe, il est toujours là, il a toujours sa mobylette ». Et même sur la mobilette bleue, il paraît qu'il avait la pipe. Mais il a perdu tous ses amis. Et il les a perdus pour la mobilette.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre, un reportage de Claudia Prolongeau, réalisé par Anne-Laure Chanel avec un coup de main de François Connac et diffusé pour la première fois le 26 février 2019. Merci à Nathan, Bernadette et Julien qui a raconté en détail son histoire dans un livre intitulé « Ma femme me ment ». Notre attachée de production, c'est Mélissa Foust et François Bréus, notre stagiaire. Avant de vous laisser, je vous annonce le retour de Sonia Kronlund, la seule, la vraie, l'irremplaçable tête pensante des Pieds sur Terre. Notre pomponnette bien-aimée revient aux manettes et au micro dès lundi 23 novembre. Tout le monde s'en réjouit, sauf ma mère évidemment. Je vous remercie d'être restés nombreux à l'écoute et je vous dis à bientôt sur France Culture.